J'ai avec moi trois auteurs du festival à Tour de Bulle pour parler du thème du festival, plus ou moins. Le festival cette année est autour des drôles de bêtes. Donc j'ai trois auteurs qui ont publié des albums avec des drôles de bêtes. Benjamin Reynard, voilà, qui est notre lauréat Tour d'Ivoire cette année pour la BD Le Grand Méchant Renard.
C'est ça, ouais.
Voilà, qui est exposé, qui va recevoir un prix ce soir, qui a fait réaliser l'affiche, le programme, les marque-pages, les t-shirts, tout le visuel du festival de cette année, et qui était mis à l'honneur au Suif Studio hier soir, qui a présenté des courts-métrages qu'il a réalisés et un dessin animé long-métrage qu'il nous a proposé. Et ouais. Puis, alors donc, avec moi, il y a deux filles, donc majorité féminine, là autour de la table. Donc Moby Dick.
Salut.
Qui est exposé aussi pour le festival à la galerie Aux Arts, donc juste à côté, pour la BD Le Roi Ours. Premier album, très très beau.
Merci.
Moi je suis complètement fan. Et Marine Blandin.
Bonjour.
Voilà, auteure de La Renarde. Alors une grande méchante renarde, je dirais, ouais. Hein, pour le coup. Ouais. Elle est vache.
Tellement plus méchante que le grand méchant renard, ah ouais, c'est... en l'occurrence.
Là, pour le coup, celle-ci, elle mord.
Pour commencer, on peut peut-être vous poser la question de pourquoi ce choix du monde animal pour vos projets respectifs.
Moi, personnellement, c'est parce que j'ai toujours été un peu baigné de La Fontaine, de tout cet univers-là. Et puis, j'ai un vrai plaisir à dessiner les animaux, en fait. Pour moi, c'est beaucoup plus simple que dessiner des humains, parce que je trouve que les humains, on voit tout de suite les imperfections, en fait. Dès qu'on se trompe, c'est évident. Alors que l'animal, je pense qu'on a moins l'habitude de les observer. Du coup, on est beaucoup plus libre. Donc, il y a un peu de fainéantise et puis du plaisir aussi de pouvoir observer ces bêtes-là.
Alors, moi, avec mon scénariste, du coup, puisqu'on est deux sur la renarde, donc je pense que pour lui, surtout, c'est une manière... ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est une manière un peu de se désinhiber... Si on ne représente pas des personnages humains, en fait, et que c'est des personnages animaliers, on peut pousser plus loin la méchanceté, en fait, notamment. Donc, voilà, je pense que c'est ça qui nous a poussé à prendre des personnages animaliers.
Et Moby Dick ?
Moi, j'ai toujours aimé dessiner les animaux. Quand j'étais gamine, c'est ce que je dessinais. C'est ce que je dessinais le plus, c'est ce qui me venait le plus naturellement. C'est ce que je recopiais. Mes parents m'achetaient des bouquins avec des animaux, c'est ce que je demandais. Ça m'intéresse. Voilà, j'ai une facilité à dessiner les animaux. Et comme tu disais, Benjamin, c'est vrai que quand on rate un animal, ça se voit moins, parce qu'en fait, le cerveau humain est fait pour reconnaître sa propre espèce. Ouais. Donc si tu foires un animal, tu foires un visage. Ouais, si tu foires un visage, même un tout petit peu, ça c'est flagrant, ouais. Ça se voit. Il y a ton cerveau qui te dit, oh mon Dieu, on est câblé pour ça, voilà. Ouais. C'est une question de survie. Alors qu'un visage animal, même on les reconnaît pas les uns les autres. Ouais. Enfin, tu regardes deux chats noirs, va dire lequel est lequel, quoi. Alors que... Donc oui, voilà. Pour répondre à la question, c'est parce que j'ai construit l'histoire autour de ce que j'avais envie de dessiner. Donc j'ai... Voilà. Des animaux, des indiens, un thème qui m'intéresse, et puis j'ai brodé pour que ça tienne. Ça tient.
Ça tient très bien d'ailleurs, et on se demande un petit peu comment vous faites quand même, parce que dessiner un animal, d'accord, bon, c'est une bête, mais votre animal, il va être bienveillant, ou méchant, ou drôle, ou un peu naïf. Donc il faut arriver à leur prêter des traits quand même qui sont plutôt les nôtres.
Mais justement, le cerveau humain ne reconnaît pas les expressions animales, il faut l'apprendre, alors que c'est inné de reconnaître les expressions humaines. Du coup, pour se comprendre, on est obligé de foutre des expressions humaines sur des animaux.
Ouais. Et alors comment est-ce qu'on fait pour, rendre un ours sympathique et un crocodile... Bon, alors du coup, le crocodile, c'est facile, oui. J'ai envie de dire.
Ben oui, c'est... Mais par exemple, on va le faire sourire, l'ours. Alors que dans la nature, un animal qui monte ses dents, c'est pas pour faire un sourire. Ouais. C'est plutôt pour dire je regarde mes dents, je vais te mordre avec. Ouais. On est un des rares animaux à montrer ses dents quand on est content. Enfin, je crois.
Avec le chimpanzé, je crois.
Oui, j'étais en train d'y penser au singe.
Mais... Voilà, comme par hasard. mais oui, un renard qui monte ses dents, personnellement, je vais pas lui tendre la main.
Ça veut... Non. Ouais, non, c'est...
Et puis le regard aussi, par exemple, les animaux, on a beaucoup de blanc de l'œil et une petite pupille par rapport aux autres animaux où la pupille prend toute la place, enfin l'iris plutôt, prend toute la place. Et du coup, quand ils vont regarder quelque chose, ils vont beaucoup plus bouger la tête que nous. Alors que nous, voilà, le sens, enfin, l'orientation du regard compte beaucoup. Donc je vais mettre plus de blanc de l'œil à mes singes.
Mais c'est vrai que dans ton dessin, on a un dessin plus, on va dire, réaliste par rapport à ce qu'on fait Benjamin en fait et moi, où finalement je suis en train de me dire, c'est vrai, par rapport à ce que tu dis, j'écoute, tu fais, moi, oh là, oui, en fait, moi, mes persos, c'est des espèces de pattes de bonhomme patate avec deux oreilles et deux pattes et puis. Donc, oui, c'est les problèmes sont très différents en fait dans ces cas-là.
Ce qui est rigolo avec le dessin, c'est que. Tu peux rendre sympathique une pomme de terre.
Oui, c'est ça, exactement.
Tu peux rendre sympathique un gribouillis. Il suffit de lui mettre des yeux, une bouche. Et c'est voilà, le cerveau humain fait pour reconnaître des yeux, une bouche. On voit des bonhommes partout, dans le robinet, dans les plaques d'égout. Il suffit qu'il y ait deux trous et un machin. Et voilà, c'est un bonhomme. Quoi.
Oui, ça porte un nom d'ailleurs, je sais
pas. La Paris Idoli.
Ah, génial. Ah, là, si tu regardes la tour en face, il y a une tête dessus.
Mais oui, il y a des bonhommes partout qui nous regardent.
Tu peux répéter Paris Idoli ?
Paris Idoli.
Paris Idoli. J'essaie de me rappeler de celui-là. Mais c'est vrai que dans les bandes dessinées de Benjamin Renner et de Marine Blandin, les personnages sont beaucoup plus schématiques. Mais en quelques traits, on comprend complètement ce qu'ils ressentent et ce qui est en train de se passer.
Quand je disais gribouillis expressif, je pensais à Benjamin. Ça me passionne.
Après, moi, le principe aussi, c'est qu'ils sont vachement anthropomorphisés. Enfin, je sais pas
ouais,
si c'est bien.
C'est de pouvoir se dire.
Du coup, en gros, ils ont une tête d'animal, mais ils ont un corps presque humain, puisqu'ils se tiennent debout.
Ils servent de leurs pattes.
Ouais, c'est ça. Donc, on revient un peu à ce que disait Marine tout à l'heure, à savoir que là, moi, j'utilise vachement aussi les animaux à la manière du conte, à savoir que. Et d'ailleurs, le grand méchant renard joue sur les préjugés du conte, à savoir qu'on évacue toutes les problématiques de société, c'est-à-dire qu'on se pose pas une question de savoir si on est en France, en Belgique, ou en URSS, ou je ne sais quoi, il n'y a pas d'époque, il n'y a rien. Et on a des animaux sur lesquels on a des préjugés, donc le renard, il doit être rusé et méchant, manque de peau, c'est l'extrême inverse. Le chien de garde, ouais. C'est censé être un chien qui veille à ce que la sécurité de la ferme, c'est une espèce de feignant qui fout rien. Et du coup, on joue là-dessus vachement. Donc là, on n'est plus dans les problématiques de dessin, mais juste de comment on récupère l'animal et on le
tourne.
Voilà, c'est ça.
Ça fonctionne bien. Bon, le loup, par contre, il est méchant quand même.
Ouais. Bah, le loup, il sera toujours méchant. Hein.
Ah, c'est malin,
il est condamné à ça, quoi.
Et dans la bande dessinée de Marine, le cheval est babacool et obèse.
Le loup est pas très. Je sais pas s'il est méchant, le loup. Il est sénile, en fait, notre loup.
Il est mourant.
Il a peut-être été méchant à une époque, mais ça lui a pas beaucoup réussi, en tout cas. Donc,
Mais la renarde finira comme ça un jour, non ?
Ah oui.
Si elle se fait pas trucider avant.
Non, le tome 46, ouais, peut-être on fera ça.
Il y a une suite, la renarde ?
Peut-être bien.
Ah, ça serait bien.
Mais je posais la question d'ailleurs de l'adaptation en dessin animé de ces bandes dessinées-là parce que ça s'y prête vraiment bien. Je sais que Benjamin, tu vas faire ton dessin animé.
Ouais.
J'ai entendu ça vite fait hier soir au studio.
Ouais. Après, pour moi, c'est plus facile parce que je viens du dessin animé. Donc, d'ailleurs, les bandes dessinées, souvent, je les réfléchis. C'est presque des storyboards de bandes dessinées à la base. Il y a des scènes que j'imaginais plus pour l'animation que pour la bande dessinée. Donc, du coup, on en parlait tout à l'heure justement, même la renarde.
Ah, ça marcherait bien ça.
Oui, ça nous plairait beaucoup et on l'entend beaucoup de nos lecteurs qui viennent en dédicace. C'est assez marrant. Vous allez en faire on verra bien ça en petite capsule de dessin animé. Ouais. Moi je réponds, nous aussi, mais bon. Et donc on essaye de. Mais voilà, il y a quand même un pas entre le monde de la bande dessinée et de l'animation, en fait. Et quand on est pas les bonnes marches, finalement, c'est pas si facile.
Oui, moi aussi, j'adorerais voir bouger ma BD, mais... Ouais, non. si quelqu'un veut le faire...
Oui, en gros budget.
Qu'il se dénonce, voilà.
Ouais, mais sans trahir le projet, parce que c'est un peu ce que tu disais, Marine, c'est pas évident, après, d'avoir confiance.
C'est ça le problème, c'est que soit on le fait soi-même et c'est comme on veut, soit c'est quelqu'un d'autre qui le fait et c'est une adaptation,
et
tant pis. Hein,
et en dessin animé, c'est vrai que faire tout seul... En bande dessinée, on est assez habitué, mine de rien, à être un petit peu... Il y a moins de monde, en fait, qui sont sur un projet. Ça soulève moins de
budget moyens. Énorme,
voilà. Et
une BD, si t'as juste un crayon et du PQ, tu peux.
Voilà, yeah, le PQ, ouais. Power PQ. Et c'est alors que c'est vrai, voilà, tout de suite ça fait un peu peur quand on se retrouve face à la grosse machine de l'animation et que il y a attention les producteurs, le mot qui fait peur.
Non, et puis t'as ce truc tout bête de savoir la valeur ajoutée qu'aura l'animation quand tu l'adapteras aussi. Est-ce que si c'est juste pour prendre les cases et te faire bouger les trucs, c'est pas forcément. Même, enfin, pour les créateurs, c'est pas forcément. Ça pas. La BD fonctionne super bien, donc faut savoir rajouter qu'est-ce qui va être drôle en le faisant, quoi. Qu'est-ce qui va être un plaisir de le faire. Je pense que ça doit vraiment faire partie.
Oui, ça nécessite d'avoir une bonne équipe en fait, au final. Ouais.
Et dans ton cas, du coup, qu'est-ce qui apporte quelque chose dans l'animation?
En fait, finalement, au début, j'adaptais la BD presque telle qu'elle était. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte, déjà d'une part, que je m'ennuyais. Et du coup, toutes les scènes restent les mêmes, mais l'intérieur a beaucoup changé. Et le fait qu'il y ait des voix aussi, ça a beaucoup changé la donne. Quoi.
C'est-à-dire que et de la musique
coup, oui, il y a de la musique. Les décors sont beaucoup plus fournis. Enfin, il y a pas mal de changements. Mais c'est presque plus narrativement où il y a pas mal de. Le film est plus tendre que la bande dessinée. Presque, bon, c'est pas des raisons de production, hein. C'est pas mon producteur qui m'a dit fait pour les enfants, c'était vraiment un choix que j'ai fait, mais c'était surtout le fait que les enfants qui ont enregistré les voix, il y avait quelque chose de tellement naïf et touchant dedans que ça a attiré le projet vers quelque chose de beaucoup plus tendre.
T'imagines des voix à tes personnages, toi, quand tu fais la BD?
Moi j'ai des voix en tête en tout cas.
Moi j'ai des copains qui s'amusent à dire quel acteur jouerait le mieux tel personnage. Tu fais ça toi?
Mais moi non, mais ce qui m'est arrivé, c'est un moment, une émission de radio, je ne sais plus laquelle, quelqu'un parlait de notre bouquin à Sébastien Chrysostome et moi à la Renarde, et y a quelqu'un qui a lu un extrait et qui a fait la voix de Kevin. Et si je me rappelle, c'est la première fois qu'on s'est dit « Oh, mais il faut qu'on le fasse en dessin animé, c'est complètement génial, c'est complètement génial. » Et le mec, il a trippé sur le percheron
obèse.
Voilà. Et on était vraiment hyper heureux, quoi. Donc, quand tu parles des voix, ouais, c'est un truc qu'on n'a pas du tout, en fait, en bande dessinée et qui est vraiment une dimension incroyable à ajouter à ces personnages.
Ouais, c'est pas que le mouvement, c'est le son.
Ouais, aussi. Ouais.
Toi, tu le fais, Moby Dick, quand tu dessines, tu imagines des voix, tes personnages?
Mais pas beaucoup, non. Mais du coup, quand j'ai vu que mes potes le faisaient, j'ai réfléchi un peu et je suis pas très bonne à ça.
Moi non plus, en fait. Hein.
Il y a juste... moi, j'écoute beaucoup Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin. C'est une émission sur France Culture, si je dis pas de conneries. France Inter, voilà, je t'ai dit conneries. Et à un moment, je me suis dit, ah mais ouais, mais c'est la voix de l'ours. Ah ouais, putain, si... Ouais. Si un jour ça, il doit avoir une voix, il faut que ce soit lui qui le fasse, quoi. Une voix géniale.
Moi, je veux un lâche-un-bas pour Georges.
Oui, carrément.
J'ai pas du tout de problème. Là,
moi, je pensais au Cassos. Je sais pas si vous connaissez.
Oui.
Il y a à un moment donné les Teletubbies qui sont complètement perchés. Il y en a un qui a une voix incroyable. Là, je voyais bien Georges aussi.
Oui, je vois exactement.
En parlant des Cassos, il y a un des acteurs des Cassos qui fait le renard, justement.
Ah, voilà, c'est cool.
Qui fait le lapin pervers.
Ah oui, très bien.
Excellent.
La part du métro.
Donc, c'est à la fois un peu gênant, mais en même temps, c'est. Et là, il fait un super bon boulot, quoi.
Il est sur quel personnage
pour... c'est le renard, c'est le héros.
D'accord.
Mais il a pas de scène. Quand je disais que j'avais changé les choses, c'est que j'ai pas tiré le. Enfin, pour ceux qui connaissent les Cassos, il y a le lapin du métro qui nous offre une scène d'auto-mutilation assez gênante, en fait. Voilà.
Qui commence à se pincer malaisant. Volontairement les doigts dans la petite porte parce que ça fait très mal. Voilà.
Et d'autres choses dans d'autres.
Dans d'autres zones plus ou moins érogènes.
Et c'est vraiment... les doubleurs de ce truc sont excellents.
Ouais, ils s'éclatent. Hein. C'est...
Pour revenir sur votre utilisation des animaux dans la bande dessinée, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au conte, ça vous permet vraiment de tirer les traits de la nature humaine, justement, de nous tous, les êtres humains?
Bah, on utilise les clichés qui existent déjà, même si je regrette un peu de l'avoir trop fait. Je me dis... Merde, quoi, il y a des animaux qui ont des sales réputations juste parce qu'un jour quelqu'un a décidé que le renard était malin. Enfin, genre, mais je sais pas si je l'aurais fait, mais je regrette un peu que ce soit le crocodile qui soit un méchant. Enfin, méchante, elle est pas, entre guillemets, en fait, elle est pas vraiment méchante. Mais voilà, le gros nounours qui fait des câlins et le crocodile méchant, bon, le gros nounours il fait pas des câlins en vrai, hein, il ment.
Ouais, mais ça fait envie d'en faire quand même.
Voilà. C'est sûr que ça a l'air plus doux qu'un, que faire des câlins à un crocodile. Mais je sais pas, je regrette un peu d'être tombée dans le cliché. Et, alors que justement, par la suite, j'aimerais réfléchir un peu plus sérieusement aux clichés et parmi les animaux et parmi le reste.
C'est vraiment difficile quand t'écris, en fait, finalement, de lutter contre les clichés et contre les images déjà que t'as, qui sont implantées par le conte, par des choses vraiment anciennes.
Ah, on nous arborait le crâne, hein.
Et c'est vraiment hyper dur de lutter contre ça, je trouve, quand on écrit. Mmh. Enfin, c'est tout.
On pourrait pas trouver un équilibre, quelque chose.
Si, mais du coup, c'est. Voilà, ça demande vraiment.
Après, tu peux faire du documentaire comme Love, tu connais ? Love, c'est une série de BD documentaire. T'en as un sur un tigre, sur le renard, sur un T-Rex. Et du coup, là, c'est documentaire. Enfin, c'est documentaire, non, c'est réaliste.
Je connais pas du tout ça.
Mais après, à l'inverse, les animaux, ils permettent aussi, je pense, de. Tu peux parler de trucs de société, ou enfin d'une morale presque parfois politique.
C'était là-dessus que je voulais en venir, justement. Ouais.
Mais en fait, c'est presque inaperçu. C'est-à-dire que tu évacues. Je pense que, par exemple, si tu parles d'un truc politique un peu tendu et que tu utilises des humains, tout de suite, il y a des gens qui vont être contre l'idée et vont. Je sais pas, parlons du. Il y a un exemple qui m'a, moi, pas mal marqué. C'était, même si c'est un documentaire, c'était le film La sociologue et l'ourson, qui était un film qui parlait du mariage pour tous. Enfin, qui était un documentaire sur le mariage pour tous. Mais où tous les personnages étaient remplacés par des marionnettes, c'est-à-dire qu'ils gardaient les voix des débats des parlementaires et tout ça, mais ils avaient pris des petites marionnettes d'oursons, de petites souris, de corbeaux, de machin. Tu les vois parler. Et c'est tout con, mais rien que ça, en fait, ça rend le débat complètement. Enfin, ça a retiré toute la tension du débat et ça.
Ça aide à prendre du recul, en fait, ça, sur une situation. Ouais. Changer la forme du.
Et puis t'as pas d'a priori non plus, c'est-à-dire que même si t'es déjà contre l'idée qui va être débattue, c'est-à-dire que le fait que t'amènes des animaux, bah t'es un peu plus. Enfin, t'en approches, quoi.
Vous le voyez comme une métaphore, justement, vos bandes dessinées.
En fait, c'est à la fois un outil, parce que voilà, comme t'as dit, en fait, certains animaux correspondent à certains clichés, en fait. Donc, on utilise ça aussi pour. C'est bien des personnages fonctions, un peu, donc, des symboles, on va dire. Et en même temps, le fait que ce soit des animaux, que ce soit dans un contexte coloré, ça laisse un peu plus de liberté, et même pour nous, en fait, pour prendre plus de recul, pour. Explorer des sujets un peu tendus, se moquer de situations dont on n'a pas le droit de rire, en fait. Le meurtre d'enfant,
voilà,
c'est
pas
drôle.
un bébé mort, c'est vachement moins rigolo qu'un bébé lapin mort.
Et ben voilà, alors que voilà, plein de gens viennent nous dire « Ah, oh, c'est super drôle, elle bouffe tous les petits de la lapine et tout. »
Qui
voilà,
est complètement dépressif. Voilà,
c'est...
Essaye de faire une version avec que des humains pour voir la différence
bizarrement, des gens. Bizarrement, ça marche pas du tout.
Tu peux pas l'appeler la renarde, tu peux pas l'appeler
non.
La femme.
Non,
tu l'appellerais la psychopathe.
Oui, voilà.
Bah merci à tous d'être passés, en tout cas.
Merci beaucoup.
C'était chouette.
Merci à vous.
On va faire une pause musicale avant de vous parler des jeunes auteurs dans la bande dessinée. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour cette émission spéciale en direct du festival La Tour de Bulle. Dans la famille playlist Animal, je demande Mano sur Radio Campus Tour.
Je me pose, non surtout pas de clause, sur ce tempo tribal. j'ai envie de poser des proses. Tu connais le renard, mec, tu connais la belette. C'est moi qui fais cet oratoire, je suis le loup sonnette. C'est une facilité de chanter, pour moi c'est ainsi. C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris. Ne vous inquiétez pas les gars, pour vous je resterai gentil. Je n'oublie pas que ma lobe aussi c'est dans les
chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard chanter. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard chanter. Mano viendra les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras.
J'entends le loup, le renard et la belette, mec. J'entends le loup et le renard chambrer. Je comprends pas, désolé, je ne vais pas toujours t'expliquer le deuxième degré. Déjà à qui dans nos pensées, c'est net. Et même si je me la pète, voilà que je me répète. Je suis vraiment trop bête, il faut que je m'arrête. À force de me prendre pour la vedette, je suis devenu la trompette. Mais dites-moi alors, mais qui est la belette?
J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra.
J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra, les gars.